de 19h. Le magazine de société de Radio Campus Paris. L'actu engagée.
Un petit village antifasciste vers la Sorbonne.
La culture décalée.
J'ai découvert ces albums et j'ai pété une pile.
Les sujets étudiants.
Pour moi, la démocratie étudiante, elle se fait dans les AG, dans les mobilisations.
Et ce qui se passe en Ile-de-France.
Le but, c'était en fait de préserver les terres agricoles autour de la capitale.
Du lundi au jeudi, de 19h à 20h, sur Internet, sur le DAB+, et sur le 93.9 FM.
Il est 19h01 et nous sommes le mardi 10 mars 2026. En ce moment, l'actualité donne le tournis. Les guerres qui continuent de déchirer des vies et des peuples. La journée internationale des droits des femmes qui vient de passer et qui nous rappelle que parfois et partout dans le monde, le combat pour nos droits est loin d'être terminé. Et puis ces jonquilles qui éclosent un peu partout, magnifiques, lumineuses, mais qui nous rappellent aussi celles et ceux qui se battent contre le cancer. Tout cela dans la même semaine, de quoi parfois devenir un peu chèvre devant la complexité du monde. Et ce matin, je suis tombée sur un texte. Il dit ceci. Pour comprendre la vie, il faut se rendre dans trois endroits. L'hôpital, la prison et le cimetière. À l'hôpital, on comprend que rien n'est plus important que la santé. En prison, on réalise que la liberté est précieuse. Et au cimetière, on prend conscience de la valeur de la vie. Le quotidien finit souvent par nous absorber. Le travail, les cours, les réunions, les objectifs, les échéances prennent toute la place. Pas le temps et toutes les excuses qu'on peut se trouver. On mesure la performance, on calcule les résultats, on optimise la productivité. Mais finalement, assez peu l'essentiel. À l'hôpital, d'un coup, la carrière n'est plus au premier plan, les mails deviennent secondaires face au simple fait de pouvoir se lever le matin, d'ouvrir les yeux un jour de plus, respirer, rire et aimer. La santé soudain n'est plus un détail, c'est la base de tout. En prison, c'est la liberté qui devient visible parce qu'elle a disparu. La liberté de sortir, de marcher, de décider de sa journée, de voir celles et ceux qu'on aime. Et puis il y a le cimetière, les rêves non réalisés, le silence pour l'éternité. Voilà qui rappelle que le temps est la seule richesse que personne ne peut renouveler. Trois richesses immenses que l'on mesure parfois seulement lorsqu'elles disparaissent. Alors ce soir, je vous souhaite pas d'aller dans ces trois endroits, simplement de se souvenir qu'ils existent. Et peut-être que dans le monde un peu chahuté en ce moment que nous traversons, c'est justement le moment de nous rappeler ces trésors, positiver, être reconnaissant et de nous y accrocher. Alors ce soir, je nous souhaite simplement de prendre soin de notre santé, de préserver notre liberté et ne jamais oublier que le temps qui nous est donné est précieux. Au sommaire de cette matinale de 19h, Charles, à l'interview, notre invité, docteur Laure Artru, présidente de l'association de citoyens contre les déserts médicaux, le ACCDM. Nous parlerons du combat qui concerne des millions de Français, l'accès aux soins. Le tour de l'actualité en Flash Info, on retrouvera Iskelani. En chronique actu avec Abel. En zoom, ce sera Robin, notre invité, Yann Mazé qui dirige le programme Box pour tous de l'association Apollo. En chronique libre, Vladimir. Et en réal, pour m'accompagner, c'est Aude. Merci pour votre fidélité et pour votre confiance. On est en direct jusqu'à 20h sur le 93.9. Restez avec nous pour la matinale.
Les mardicipales. À l'approche des élections municipales 2026, la matinale de 19h vous propose sa série spéciale. Tous les mardis jusqu'au 10 mars sur Radio Campus Paris.
Notre invité, docteur Artru, président de l'association de citoyens contre les déserts médicaux. Et c'est Charles qui nous mène l'interview. Bonsoir Charles.
Bonsoir Francesca, tu l'as assez bien dit. Aujourd'hui nous recevons Laure Artru, présidente de l'association des citoyens contre les déserts médicaux, en abrégé ACCDM, une association qui agit au quotidien pour ouvrir des centres de santé, attirer des médecins libéraux et lutter concrètement contre les déserts médicaux. Bonsoir et bienvenue docteur.
Bonsoir et merci de me recevoir.
Ouais, aujourd'hui en France, selon votre association, 23 millions de personnes vivent dans un désert médical, avec environ 9 millions de Français qui n'ont pas de médecin traitant. Dans les campagnes, il faut parfois faire des kilomètres pour accéder aux centres de santé. L'absence de transport en commun, manque d'argent, complexité administrative pour bénéficier des aides auxquelles elles ont droit sont entre autres les nombreuses barrières qui empêchent les plus précaires de se soigner. La première question dont j'ai envie de vous poser en ce moment est celle de savoir comment est-ce qu'on en est arrivé là.
Écoutez, il y a beaucoup de facteurs qui sont en cause. Le plus important est certainement le numerus clausus, c'est-à-dire la décision de diminuer considérablement le nombre de médecins formés à la demande des médecins, hein. Il faut bien se rappeler ça, c'est que les médecins étaient trop nombreux et ils avaient du mal à travailler, donc ils ont demandé qu'on diminue le nombre d'étudiants formés, sauf que cette diminution a été trop importante et elle a diminué de façon drastique. Et surtout, les médecins n'ont pas organisé et anticipé le fait que moins il y a de médecins, mieux il faut les répartir. Et en fait, comme ils sont mal répartis, c'est la cata.
Ouais, vous parlez bien des catastrophes, effectivement, pour ces riverains des banlieues. Vous parlez dans votre lettre datée du 6 novembre dernier d'une situation dramatique concernant l'accès aux soins en France. Concrètement, que vivent aujourd'hui les habitants des déserts médicaux?
Bah écoutez, les habitants des déserts médicaux, ils vivent un parcours du combattant. C'est-à-dire que s'ils ont un médecin généraliste, le médecin suivant trop de patients ne peuvent pas répondre donc à leurs demandes. Donc, par exemple, vous avez la grippe, on vous donne rendez-vous dans 3 semaines. C'est formidable. Vous faites une entorse, vous avez besoin d'un arrêt de travail, bah, vous ne pouvez pas l'avoir. Il faut faire des numéros d'urgence. Et puis, si vous n'êtes pas un peu dégourdi, si vous n'avez pas d'entre-gens, d'amis pour vous aider, bah vous renoncez. Vous arrêtez de prendre vos médicaments parce que personne ne vous les renouvelle. Vous ne pouvez pas prendre de rendez-vous d'examen parce que la première IRM, elle est à 3 mois, la première radio, elle est à 3 semaines. Donc voilà, la réalité, c'est que si vous voulez, les patients cotisent, tous cotisent. Les uns sont soignés et les autres meurent dans l'indifférence générale. Et c'est lamentable. Dans les campagnes reculées, vous avez moins de chimiothérapie, moins de radiothérapie parce que les cancers ne sont pas diagnostiqués. Donc voilà ce que vit le patient dans un désert, c'est l'horreur.
Oui, je le disais encore à l'entame de mes propos, votre association œuvre au quotidien à la création des centres de santé pour attirer les médecins libéraux. Est-ce que avec ces initiatives-là, on n'essaye pas de rattraper le tir, quoi?
Si vous voulez, la problématique, c'est que pour résoudre ce souci-là, il faudrait que les médecins s'en préoccupent et soient les premiers à vouloir aller aider et faire de la solidarité leur ADN. Et ce n'est pas le cas. C'est-à-dire qu'en fait, ils travaillent et vivent dans des villes de centres hospitalo-universitaires où ils ont été formés et ils n'ont pas du tout l'intention d'augmenter leur temps de travail pour aller faire de la solidarité territoriale. Alors, il y a quand même des choses qui se passe, mais si vous voulez créer des centres de santé, s'il y a des paramédicaux dedans, c'est bien, mais il faut aussi des médecins et il faut donc que les médecins acceptent de venir travailler au moins quelque temps là où ils veulent pas vivre après.
Un problème longtemps décrié par de nombreuses associations, parmi lesquelles la vôtre, au gouvernement. Enfin, pourquoi est-ce que les actions tardent à être mises sur pied?
Eh bien, parce que, encore une fois, il y a un problème de nombre de médecins, quoi. On peut pas arriver à, on peut pas fabriquer des médecins là où il y en a pas. Donc, il faut que les médecins acceptent de travailler en coordination avec des infirmiers, avec des assistants médicaux, avec tout ça pour optimiser le temps médecin et qu'ils acceptent de les déléguer certaines tâches qui ne sont pas utiles. Vous savez, comme dans les pays anglo-saxons, vous ne voyez pas le médecin d'abord, vous voyez d'abord l'infirmière. Et c'est l'infirmière qui va dégourdir un certain nombre de choses et vous confiera au médecin après. Or, les médecins ont été très réticents initialement à ce transfert de compétences et on a pris un retard considérable. Donc, si vous voulez, il y a peu de médecins et le temps médecin disponible est peu important et les médecins ne cherchent pas à optimiser ce temps de travail parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur enlève certaines tâches simples qui sont finalement utiles pour eux, ça les repose et voilà, en fait, c'est très compliqué.
Alors, docteur, je voulais vous demander, justement, il y a donc un nombre insuffisant de médecins. Ensuite, on a un manque de solidarité. Et les derniers qui sont diplômés, est-ce qu'ils sont sollicités? Quelles sont les mesures qu'on leur propose, qu'on propose?
Eh bien, si vous voulez, jusque-là, on leur déroule le tapis rouge.
Oui, évidemment.
C'est open bar. Rien n'est impossible. On leur organise des tours opérateurs dans le fin fond de l'Indre-et-Loire ou de je ne sais quel département. On leur fait faire des promenades en montgolfière. On les invite dans des châteaux. C'est complètement délirant, si vous voulez. La médecine étant un monopole, le jeune médecin, pour l'instant, un maître mot, l'attractivité. Attractivité. Si tu viens, je te donne 50 000. Si tu viens dans le truc d'à côté, ça sera 10 000 de plus. Enfin, c'est honteux, quoi. C'est complètement honteux. Et il n'est jamais question d'obligation. Si vous voulez, nous, dans notre métier de médecin, nous sommes au service de la population. Si on veut faire autre chose que de s'occuper des autres, il ne faut pas choisir ce métier-là. Mais ce métier-là, si vous voulez, on a des obligations, on a des devoirs. Donc, si effectivement les médecins choisissent d'aller à mer, montagne, soleil, métropole et très peu travailler, il faut qu'ils organisent une solidarité. Sinon, ce sera la loi qui va obliger les médecins à aller travailler. C'est le cas. Il y a une loi qui s'appelle la loi Garot, qui est une loi où on demande que les médecins non pas soient obligés d'aller travailler où ils ne veulent pas vivre, mais n'aillent pas là où on n'a pas besoin d'eux. Et même ça, ils n'en veulent pas. Donc, si vous voulez, c'est vraiment une problématique qui est terrible. Et la délégation de tâches aux infirmières, une infirmière de pratique avancée qui est capable de faire certaines tâches, et c'est 20 000 balles par an. Et pendant deux ans. Donc, il faut des financements. Donc, il y a des mairies qui sont très préoccupées de ça. Vous voyez, ces élections municipales.
Bien sûr.
Moi, je vois des candidats municipaux. Ils disent, écoutez, c'est gentil, la réfection du gymnase, les vestiaires, tout ça, moi, j'en ai rien à faire. Moi, je vais payer des ponts d'or, des médecins pour qu'ils viennent. Et ils seront payés énormément. Et tant pis. Moi, je considère que la survie de mes concitoyens est importante. Mais à la réalité, c'est un scandale, oui. Parce que vous payez vos cotisations pour avoir votre santé. Enfin, la santé, c'est un droit égalitaire et c'est inscrit dans la Constitution. La nation doit aux citoyens la santé de façon égalitaire. Alors que là, y en a qui sont plus égaux que d'autres. Lundi, c'est IRM, mardi, gynéco, mercredi, c'est kiné, machin. Alors que dans la Sarthe, ça, c'est tous les 4 mois.
Oh là là.
C'est scandaleux. Pas scandale. Et alors, en fait, les patients, les populations ne se rebellent pas. Il y a une espèce de résignation implicite. Ah, mon docteur, il ne dit rien. De toute façon, il n'y a rien à faire. Si, il y a à faire. Si tout le monde était dans la rue à se mobiliser en disant, vos deux docteurs, on en a marre, il faut des obligations, ça se ferait.
Nous, on attend. Allez-y, pardon, désolé, excusez-moi.
Non, mais je disais, si les gens voulaient se mobiliser, on arriverait. Hein.
On va poursuivre, docteur, cette interview juste après. On va faire une petite coupure musicale. On va poursuivre cette interview juste après. On va écouter Blossom Tree de Milk and Bone. À tout de suite.
Merci. We'll be right back.
Écoutez le titre Blossom Tree de Milk and Bone et on retrouve tout de suite l'interview avec Charles.
La matinale de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
On retrouve docteur Laure Artru donc sur le sujet des déserts médicaux. Et cette interview est menée par Charles.
Merci Francesca. Docteur, tout à l'heure, avant de se séparer, vous parliez de la loi de Garot. Lors de mes recherches en préparant cette interview, je découvre que dans le journal Le Monde, publié en 2017, ils ont publié les cartes des zones les plus touchées par les déserts médicaux. Ce qui attire davantage mon attention, c'est que figure le bassin parisien ou même le massif central, notamment le Val d'Oise ou la Seine-Saint-Denis. Quelle lecture vous faites ?
Bah écoutez, la lecture, elle est terrible parce qu'en fait, ce sont des départements ou des quartiers qui sont extrêmement peuplés. Donc finalement, c'est catastrophique. Donc si vous voulez, c'est vrai que il y a beaucoup de jeunes femmes maintenant qui se présentent en médecine et il y a presque 70% de réussite pour les femmes maintenant. Et dans les quartiers, ben les femmes, elles n'ont pas très envie d'aller travailler. Il leur faut des conditions de sécurité. Ce qui est un problème, si vous voulez, c'est que les médecins choisissent de travailler là où ils ont envie, donc les quartiers plutôt plus agréables, plus verdoyants. Voilà. Et en fait, malgré tout, dans ces quartiers ou en particulier en Île-de-France, il y a quand même une prise en charge du soin qui n'est pas péjorative parce qu'il y a un grand nombre de médecins spécialistes encore. Donc, on arrive à mieux se débrouiller. Dans le massif central, où là, il n'y a ni médecin généraliste, ni médecin spécialiste, c'est beaucoup plus compliqué. Mais effectivement, s'il n'y a pas d'obligation et que les médecins, avec leur monopole, travaillent où ils veulent, quand ils veulent et pour le salaire qu'ils définissent, c'est très, très compliqué. Alors, vous voyez, il y a une petite éclaircie qui va arriver. Ce sont les docteurs juniors. Donc, on leur a rajouté à eux, c'est pas très rigolo non plus, une quatrième année de médecine générale. Et ils vont être détachés pendant un an, justement, dans des déserts médicaux pour aller travailler. Donc, ça, c'est la première fois qu'il y aura du temps médical supplémentaire dans les déserts médicaux. Mais donc, il faut que les internes soient bien accueillis, il faut qu'ils soient logés, il faut qu'ils soient encadrés pour que ça marche. Mais ça veut bien dire que quand même, si vous voulez, cette problématique, elle est au premier plan, quoi. Parce que c'est trop compliqué pour les patients.
Alors, docteur Artrude, vous êtes président de l'association des citoyens justement contre les déserts médicaux. Concrètement, quelles sont les actions que vous menez? Et donc, si on prend la dimension politique, les municipales 2026, est-ce que la question justement de l'accès aux soins est un sujet de campagne ou vous ne l'avez pas vu passer?
Si, bien sûr. Oui, l'accès aux soins est un sujet de campagne. Et nous, effectivement, on a un rôle, on a des antennes dans les... Dans différents départements, un petit peu sinistrés, et toutes nos antennes ont pris contact avec les, les équipes de, ouais, voilà, les candidats, en faisant bien attention, parce que nous, nous sommes apolitiques, hein, de prendre contact avec toutes les équipes pour qu'il n'y ait pas du tout d'ambiguïté. Et nous, on est en, c'est très important pour nous. Alors, quelles actions on a? Ben, on aimerait bien avoir beaucoup plus d'adhérents pour pouvoir mener des actions visibles sur le terrain. Donc, on essaye de faire des manifestations dès qu'il y a une problématique locale un petit peu aiguë. Souvent, c'est vis-à-vis de l'hôpital, les fermetures programmées d'hôpitaux, choses comme ça, où on peut aller sur la voie publique. Mais sinon, on fait des réunions, en fait, des réunions d'information, informer les gens qu'ils ont le droit de se plaindre, hein, et que, en fait, tout n'est pas définitif. Et si on arrivait à mobiliser les gens sur ça, quoi, nous, on réclame une égalité. Si on avait 9 millions d'adhérents, tous les patients sans médecin, ça serait super bien. Et en fait, la difficulté, c'est qu'on a une patientèle, entre guillemets, très volatile. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas de médecin, ils sont empoisonnés. Soudain, il y a un médecin, puis deux, puis trois qui s'installent et ils militent plus, quoi. Ils s'en fichent, en fait. C'est un peu chacun pour soi, quoi. Il n'y a pas de solidarité non plus entre nos adhérents. Et ils adhèrent une année, deux années, puis après, ils adhèrent plus parce qu'on ne fait rien de concret. Moi, si vous voulez, je fais plus de choses pour mes adhérents sartois parce que je suis médecin et que je leur ouvre des portes pour avoir des rendez-vous. Mais sinon, on a très peu de capacités. Donc, on fait du lobbying médiatique. Nous, on travaille avec l'UFC Que Choisir, avec France Asso Santé. On essaye de faire justement des choses visibles. On est reçu à l'Assemblée nationale, au Sénat, etc. On a accompagné la marche d'un maire qui a marché contre les déserts médicaux au départ de l'Orne. On fait des petites choses, entre guillemets, et surtout, on ne trouve pas de docteur pour les gens. Donc, si vous voulez, c'est très frustrant. C'est-à-dire que nous, on aimerait bien pouvoir dire « venez chez nous, on va vous trouver des docteurs », mais ce n'est pas le cas. Mmh. On explique aux gens comment ça marche, on leur donne des petits tuyaux, on essaye de faire, mais on ne fait rien de concret vraiment. Alors, sauf qu'à chaque fois qu'il y a une mobilisation quand même, dans des communes sinistrées où il y a vraiment un problème aigu, le fait que l'association se mobilise, c'est sûr que des solutions sont plus facilement trouvées. Et ça, c'est quand même bien. Mais si vous voulez, bon, bah, c'est pas, vous voyez, au plan national, on est avec le groupe transpartisan de Guillaume Garot, hein, groupe transpartisan de députés qui a donc émis cette loi, qui a été votée. Puis là, c'est le déni de démocratie. C'est-à-dire que ni le gouvernement, ni les sénateurs ne veulent entendre parler d'embêter les docteurs à faire quoi que ce soit. Donc, on met pas la loi Garot à l'ordre du jour du Sénat. Alors qu'elle est votée en mai dernier, ça va arriver. On va arriver à un an du vote de cette loi et qui ne fait pas son parcours parlementaire parce qu'il y a des oppositions du gouvernement qui ne veut pas en entendre parler, des sénateurs qui n'ont pas du tout envie non plus de… Vous comprenez, c'est un déni de démocratie. Bien en sûr. Fait, c'est très, très compliqué. Il y a un lobby médical qui est très, très important. Donc, c'est vrai que moi, je suis médecin, j'ai mon franc-parler parce que je suis dedans et puis que j'en ai marre, en fait, hein, de voir mes patients… mal pris en charge, mais à la réalité, on n'a pas de levier vraiment très puissant, mais il n'empêche qu'on a une voix qui existe. Vous nous avez trouvé pour une interview aujourd'hui. On passe dans les médias nationaux. On a voix au chapitre pour exprimer la voix des citoyens, mais on n'a pas de... On n'a pas de preuve tangible d'efficacité à leur donner, sauf qu'on est là tout le temps pour les défendre.
Docteur, vous faites bien d'en parler. Face à cette pénurie, le gouvernement a promis la création de 5 000 maisons France Santé d'ici 2027. Mais ce qui est curieux, c'est que dans votre lettre, vous parlez d'un mirage dans le désert. Mais pourquoi ?
Exactement, un mirage. C'est-à-dire que Monsieur Le Cornu, il a fait un peu candide, hein, il arrive au gouvernement, il a dit « il y en a marre de cette histoire de santé, on va faire à la place des maisons en France, là, vous savez, dans les qui remplacent la poste et tout ça, on va faire pareil pour la santé, sauf qu'il n'y a qu'à Faucon, il n'a rien inventé, on labellise, entre guillemets, des maisons de santé qui existent déjà ». Donc, rien n'est mieux sous le soleil, quoi. C'est vraiment de la poudre aux yeux, c'est de la com, ça ne sert à rien, sauf de récupérer une petite subvention qui est de 50 000 euros une fois, vous ne ferez rien avec ça. Vous ne pouvez pas embaucher, vous pourriez embaucher un assistant médical et l'année prochaine, vous ne pourriez pas le payer. Donc, si vous voulez, c'est du n'importe quoi. Parce qu'il y a tellement, c'est tellement un problème grave que tout le monde a des idées intéressantes pour y remédier, sauf que les idées intéressantes, c'est de mettre des soignants, de les faire travailler ensemble et de donner une réponse tangible à quelqu'un qui est hors du soin et qui va mourir si on s'occupe pas de lui. C'est ça la réalité, vous comprenez ? Il y a une surmortalité dans les déserts médicaux. C'est pour ça qu'on comprend pas que les populations soient pas excédées. Et parce qu'en fait, à quoi ça sert ne pas avoir d'argent, de loisirs, de machin, de trucs, on veut bien, mais après mourir plutôt. Alors voilà, le gouvernement, ce qu'il sait faire, c'est faire la loi sur l'aide à mourir. Donc ça, c'est merveilleux. Comme ça, comme il n'y a pas de soins palliatifs, ben, ça va faire des économies. Ça va être super. Non, mais c'est une vraie chance, finalement. On a un gouvernement formidable. Hein.
Docteur, on arrive à la fin de cette interview. Je voudrais quand même, malgré justement ces difficultés, qu'est-ce qui vous donne encore de l'espoir dans ce combat ?
Ben moi, ce qui me donne de l'espoir, c'est que d'abord, je continue à travailler. Moi, je suis en retraite et je travaille dans les super déserts médicaux. Et je me dis qu'il faut qu'on soit une voix qui soit là, Tony. Enfin, si vous voulez, on serine les choses et ça va finir par se faire. C'est pas possible autrement, quoi. C'est pas possible autrement. La loi va passer, les infirmiers vont prendre le dessus sur les médecins et les médecins, bah, ils feront un travail différent, hein, ça c'est clair. Mais je crois que oui. Et puis, il y a, si vous voulez, dans les territoires, moi là, je fais des réunions publiques, il y a 200 personnes qui viennent et puis à la fin, il y a tous les gens de territoire merveilleux, formidables. Il y a des médecins exceptionnels, il y a des infirmiers exceptionnels. Il y a cette envie de faire, vous voyez, les équipes de soins coordonnées autour du patient, c'est un truc invraisemblable, c'est un sigle incroyable. Et ben, ça peut être le podologue qui voit Monsieur Bidule qui a un corps au pied, qui se dit oh là là, il est bizarre ce corps au pied, il doit avoir une artérite. Et à ce moment-là, on se rend compte que le monsieur, il est diabétique, abandonné des soins. Et il y a une équipe de soins qui se met autour du patient et qui lui sauve la vie. Vous voyez, c'est ça ce qui se passe aujourd'hui. Oui. C'est que des choses positives, de la solidarité, de l'entraide, oui. Donc moi, j'y crois parce qu'il faut y croire.
Merci beaucoup, c'est la fin de cette interview.
Je vous en prie.
Je rappelle quand même votre association qui propose aussi une adhésion via la plateforme Allo Asso et qui permet de soutenir les actions de votre association. Merci d'avoir été avec nous. Merci infiniment. Tout de suite, c'est le Flash Info.
Le Flash Info de la matinale de 19h.
Le tour de l'actualité, et c'est avec vous, Iskilani.
Bonsoir. Bonsoir. En France, les élections municipales s'approchent et plusieurs villes ont organisé des débats entre les candidats. À Nice, 4 candidats ont discuté de la sécurité, du logement, du coût de la vie et de la gestion de la ville. La droite se focalise sur la sécurité et la gauche insiste sur la construction de logements et la promotion des politiques sociales et écologiques. À la Cité internationale Université de Paris, le directeur de la maison de l'Argentine, Santiago Mucio, utilise l'établissement comme moyen d'étendre les idéaux de l'extrême droite. Cela se manifeste par le retrait de la plaque commémorant les 30 000 victimes de la dictature argentine, le refus de signer la charte du campus incluant des principes comme l'illégalité de genre et l'orientation sexuelle, et l'installation d'une statue de la Vierge, contraire au principe de laïcité. Ces situations inquiètent certains résidents qui hésitent à s'exprimer et a provoqué plusieurs démissions. Au niveau international, la guerre en Iran reste au centre de l'actualité. Le pays a un nouveau guide suprême, Mojtaba Khamenei, successeur de son père Ali Khamenei. Malgré cela, Donald Trump affirme que la guerre est pratiquement terminée, tandis que le corps des gardiens de la révolution iranienne répond que ce sera Téhéran qui déterminera quand elle se termine et prévient que ses missiles sont plus puissants qu'au début du conflit. De plus, l'Iran menace de bloquer ses exportations de pétrole et Trump a répondu que si cela se produit, les États-Unis frapperont le pays 20 fois plus fort. À Gaza, l'Amnesty International dénonce les politiques israéliennes et la destruction totale du système de santé, qui a entraîné la mort des filles et des femmes en raison du manque de soins, l'interruption des traitements pour les maladies chroniques et les retards dans l'évacuation médicale. Malgré les conflits mondiaux, les Jeux paralympiques d'hiver Milano Cortina 2026 poursuivent, offrant chaque jour des moments inoubliables. Un moment marquant a été la victoire ce week-end de Cécile Hernandez, la Française qui a remporté pour la deuxième fois l'or en snowboard cross féminin.
Merci beaucoup, Skilani. On revient tout de suite après une petite pause musicale. On écoute Lost and Found de Chroméo et il est 19h31. Vous êtes sur Radio Campus Paris.
Remember Steve, he's such a thief. He stole your heart and promised he would never leave. And Stephanie, oh what a tease. We fell in love and then we turned to frenemies. Remember Rob was on his job until you caught him talking with your best friend. And then there was Simone.
Found de Chroméo et c'est l'heure de la chronique.
Les Mardicipales dans la matinale de 19h.
Je n'ai pas de sujet, il m'a fait la surprise et c'est Abel. Bonsoir Abel.
Bonsoir Francesca, bonsoir Radio Campus, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans la chronique la plus décisive des municipales 2026. L'avenir de vos villes est entre mes mots, alors gare à Sarah Knafo et aux chiottes ta ville heureuse. Et si seulement c'était vrai, si seulement j'avais le moindre impact sur ces municipales. Alors vous me direz, chaque vote compte, même mieux chaque voix. Et je suis d'accord, malheureusement je vote pas du tout à Paris mais dans mon village en Bourgogne. Une sympathique bourgade dépérissante de 250 âmes, dont 90 à l'EHPAD, cassé 90 inscrits de plus sur les listes électorales mais jamais aperçu devant l'urne. C'est un bled où l'on pourrait penser que les esprits sont tournés vers la fermeture du dernier restaurant local et l'absence de farine dans le distribopain de son vrai nom, mais la réalité est bien plus grave. Surendettement, population vieillissante, montée dénivelé 90 pour l'extrême droite et surtout la gestion de nos citoyens compliqués, divers assassins, escrocs, terroristes. Et oui, nous avons eu un terroriste et un vieux de la vieille en plus, style pognon, signon, explosion. Et ça fait peur, je sais, mais quand M6 est arrivé dans le village, on était un peu flattés. Alors quelle solution ? Être absorbé par la commune voisine, ces salopards de blénésiens ? Jamais. Avant, construisons un data center ou un Club Med pour sauver nos subventions. Et vous moquez pas, le Club Med, c'est une histoire vraie. Hein. Donc certes, on peut pas dire que mes mots aident à nous rendre attractifs, mais promis, on a plein de choses à montrer. Une distillerie dynamique tenue par le maire, un EHPAD moins dynamique dirigé par le maire et des événements festifs sur l'année organisés par le maire. Un village, c'est un peu comme une mafia. Il est élu chef sans aucune opposition. Il touche à peu près tout dans le coin. Il reste 20 ans au pouvoir et il meurt pendant son mandat ou juste après. À part chez les voisins blénésiens où une mère et un fils s'affrontent pour la mairie. Chez nous, c'est parti unique, vote unique et quoi qu'il arrive, réélu à 100%. Et j'aurais bien aimé m'opposer, trouver d'autres alternatives, stopper la dictature. Mais malheureusement, mon père est premier adjoint et meilleur ami du despote, ainsi qu'associé à la distillerie. Et en plus, vu que je suis pas là le week-end prochain, devinez qui va voter par ma procuration ? Le maire. Vous parlez d'une démocratie. Vous, votants parisiens, vous avez pléthore de choix dans les candidats entre ceux qui piquent dans les caisses, ceux qui veulent virer les SDF et les partisans du retour des voitures sur les quais. Et ça, ça devrait être un sujet qui réveille les consciences. Sinon, plus de Molki et de Vinat à Pont-Marie les bobos. Vous avez des vrais choix. Nous, c'est juste une occasion de boire un coup après le comptage des votes ou de se retrouver un peu tous ensemble après l'hiver. La politique, ça nous touche moins. Et même lors des élections, ça scinde assez peu nos braves citoyens. Finalement, ce qui compte, c'est l'esprit de communauté et la survie de notre municipalité. Malheureusement, cette survie dépend de moins en moins de nos maires, mais de l'État. Alors à tous les habitants et originaires de petites communes, essayez de les faire vivre un peu plus longtemps. Convainquez-les d'arrêter l'extrême droite et le kir à 11h, mais surtout, allez voter. Bonne soirée.
Merci beaucoup Abel et tout de suite on retrouve le Zoom.
Le Zoom dans la matinale de 19h.
Le Zoom, c'est avec Robin et notre invité Yann Mazé. Yann Mazé du programme Box pour tous de l'association Apollo, un projet qui utilise la boxe comme outil d'inclusion sociale. Bonsoir à tous les deux.
Bonsoir Francesca, bonsoir Yann. Alors, bonsoir. On connaît tous les bienfaits du sport sur notre santé, hein, que l'on soit valide, en situation de handicap, vieux, sédentaire, sportif du dimanche ou encore carrément nul à chier. Le sport nous fait du bien et on le sait. Et ce soir, donc, dans ce Zoom, on va parler d'handisport, mais pas n'importe lequel, puisqu'on va parler de boxe adaptée et d'handibox avec vous, Yann Mazé. Vous êtes directeur et coordinateur du programme Boxe pour tous de l'association Apollo. Et alors, j'aurais une première question pour vous. Apollo, d'après ce que j'ai compris, donc, c'est de la boxe pour tous. On y retrouve une pratique de la boxe adaptée, valorisante, encadrée et reconnue. Vous organisez même des remises de médailles, de diplômes et de livrets de suivi personnalisé. Mais alors concrètement, pour qui peut-on adapter la boxe et comment est-ce que vous le faites chez Apollo ?
Alors l'association Apollo sert en ce sens la boxe ainsi que nos adhérents de revoir totalement l'image un peu d'épinal qu'on a de la boxe avec forcément des chaos, avec des gens sur le ring. Non, la boxe ce n'est pas que ça. C'est accompagner également des publics en situation de fragilité. Donc moi c'est au cœur de mon engagement sur des problématiques de santé publique, qu'elles touchent à la santé mentale ou bien à la santé physique. Et également au lien à la cohésion sociale, notamment dans le champ du handicap, de la protection de l'enfance, de la réinsertion et des seniors. Donc notamment dans les personnes en EHPAD dans le petit village d'Abel, eh bien, certains qu'on pourra aider à remobiliser leurs fonctions cognitives pour voter de façon plus lucide.
D'accord, et donc du coup, donc, sport adapté et handisport, est-ce que du coup en boxe adapté et en handibox, est-ce que vous faites une différence entre ces deux termes?
Oui, complètement. Donc la boxe adaptée, elle se destine pour les publics porteurs de déficience intellectuelle, troubles psychiques et tout ce qui est en lien avec les troubles du neurodéveloppement. Ça peut être la dyslexie, dyspraxie, les troubles du spectre autistique aussi, puisqu'on a une grosse spécificité pour l'accompagnement de ce type de public par la boxe adaptée.
D'accord.
Et puis au niveau de la handibox, on accompagne plutôt des publics qui sont en situation d'handicap physique et sensoriel.
D'accord. Donc Apollo, c'est aussi, de ce que j'ai vu sur le site de votre association, c'est plus de 300 adhérents en boxe, si je dis pas de bêtises, qui sont donc en situation de fragilité, que ce ne soit pas que des personnes porteuses de handicap ou des seniors ou des enfants à protéger ou forcément en réinsertion sociale. Vous comptez aussi du coup plus de 1000 adhérents si on compte le yoga, la zumba et le fitness. Comment est-ce que vous percevez la réussite de votre association? Est-ce qu'il y a une recette miracle pour pouvoir avoir un accès tant au sport adapté aujourd'hui?
Alors à la base, pour mettre en mouvement ce genre de projet, il faut une conviction humaine. Ma conviction humaine, c'est de bâtir une société qui soit plus juste, plus fraternelle et plus équilibrée que le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Et l'idée, c'est de mobiliser les différents acteurs de notre communauté, parce que on commence à avoir une petite communauté quand on a un millier de personnes qui sont autour de nous, mais pas que. C'est aussi de les mobiliser par des valeurs comme l'engagement, la joie, puisque c'est ce qui fait que les gens vont rester dans l'activité par le plaisir qu'on partage ensemble, et puis également la fraternité. Voilà, on est dans un monde qui a besoin de mettre en avant la fraternité. La fraternité, c'est la différence de chaque individu, mais qui fait qu'on est capable d'oublier ces différences quand on partage ensemble une passion commune. Et en l'occurrence, c'est la boxe qui permet de faire tomber toutes les barrières et les freins psychologiques qu'on a, notamment vis-à-vis du handicap.
Et donc, vous le disiez tout à l'heure, on a cette image de la boxe assez violente, construite socialement par les hommes, pour des hommes. On imaginait difficilement, il y a deux décennies de ça, avant les JO de Rio, qu'une femme déjà fasse de la boxe. Et encore moins que maintenant, une personne en situation de handicap, notamment peut-être en fauteuil roulant, puisse boxer. Alors, comment ça se passe et comment vous faites, comment vous axez vos cours, comment ça peut se dérouler?
Alors un cours, très concrètement, il est orienté sur des problématiques de santé encore. Donc lutte contre la sédentarité, canalisation de l'anxiété et des angoisses, gestion de l'hyperactivité, et puis également développement de l'image de soi et du lien social, puisque c'est tout le sens en fait des cours qu'on fait. D'un point de vue plus pédagogique cette fois-ci, un cours c'est toujours compartimenté en quatre temps de façon assez classique. Un premier temps qui est un temps qu'on appelle la chauffe en boxe, on fait monter un peu le cardio, on réchauffe les muscles pour éviter la blessure. Un deuxième temps d'apprentissage, troisième temps de dépassement. Ce troisième temps est hyper important parce que ça va permettre de travailler sur l'image qu'on a de nous-mêmes. Souvent, quand on est en situation de handicap, on a pu entendre des choses, percevoir des regards ou même avoir une vision de soi-même qui est dépréciée. Alors qu'en fait, on est capable de faire énormément de choses. Et d'ailleurs, on le prouve dans les grands galas de boxe qu'on organise avec nos sections de boxe adaptée, de handibox, surtout la section de boxe adaptée qui monte sur le ring et qui met ça en avant. Puis toujours un dernier temps de retour au calme.
Donc là, on parle vraiment d'un regain de confiance en soi pour tous les publics qui sont en difficulté et fragilisés. Est-ce que la boxe est née est-ce que vous avez choisi la boxe exprès pour redonner un petit peu de force à tous ces publics, ou ces publics-là étaient là avant pour rester à la boxe?
Alors en fait, moi, la rencontre avec la boxe, j'étais pas boxeur à la base, ça s'est fait tout à fait par hasard. Il y a un joli mot pour ça s'appelle la sérendipité. C'est le hasard qui provoque des conséquences bien heureuses et plein de bienfaits. C'est exactement ce qui m'est arrivé en fait en discutant avec un ami qui avait un club de boxe qui m'avait parlé un petit peu du projet. Je l'ai rappelé 15 jours après, je lui ai dit écoute, moi, ça m'emballe totalement. J'ai envie de m'engager dans ce projet-là. Au fil du temps, avec la pratique, je me suis aperçu de tous les bienfaits que la boxe apportait. Donc, en fait, l'approche est plutôt protéiforme. C'est-à-dire que c'est pas la boxe qui m'apporte ou qui apporte aux autres, ou moi, ce que j'apporte à la boxe, que les adhérents apportent. C'est en fait un système, un ensemble d'éléments qui sont en interaction les uns avec les autres. Donc, en gros, la mayonnaise prend, pour le dire plus simplement.
D'accord, très bien. Donc, on va parler un petit peu quand même politique sportive, parce qu'en plus, ça va bientôt être le cas le 15 mars. Donc, on l'a vu, il y a deux ans, pendant les Jeux paralympiques de Paris, ils ont explosé des records. L'audience globale en direct de ces Jeux avait augmenté de 40% par rapport à Tokyo et de 117% même par rapport à Rio en 2016. Est-ce que vous, dans votre association chez Apollo, est-ce que vous pouvez témoigner des retombées des JO par rapport aux inscriptions et aux adhérents que vous pourriez avoir maintenant ?
Oui, alors totalement. Donc il y a eu effectivement une démultiplication du nombre d'adhérents. En quelques années, on est passé d'une centaine de personnes à un peu plus d'un millier de personnes accompagnées. Moi, à titre personnel également, j'ai été particulièrement engagé sur les Jeux paralympiques. Donc c'était le 28 août 2024, puisque je faisais partie des 12 derniers relayeurs de la flamme paralympique qui ont réuni la flamme sur le parvis de l'hôtel de ville. Et ça engage. Ça engage parce que en fait, c'est pas une question d'ego de porter la flamme paralympique, c'est qu'on porte quelque chose qui nous dépasse et qu'on doit transmettre, qu'on doit continuer de faire exister, qu'on doit continuer de faire grandir et de développer. Et c'est ce que je fais en me rendant chaque mois maintenant dans des structures du milieu médico-social pour leur présenter la tenue de relayeur, pour certains de l'enfiler et de se faire un selfie avec, et de leur présenter également le cœur de la flamme. L'enjeu également avec la réduction des ressources pour la mise en place de programmes sportifs est aussi de trouver des alternatives pour le financement. Et notamment, il y a certains projets qui me tiennent à cœur, et notamment la création d'une alliance entre les entreprises, les institutions et les associations pour développer le parasport.
D'accord. Et du coup, ça prendrait quelle forme ?
Alors,
ce projet-là, est-ce qu'il est assez concret ou...
Non, il est assez concret. En fait, ça prendrait la forme d'un groupe de 100 personnes. Donc, j'ai eu l'occasion déjà de me rapprocher de certains conseillers ministériels pour leur présenter un peu le projet, qui m'ont orienté plutôt vers le Conseil national consultatif des personnes en situation de handicap, dit plus rapidement le CNCPH, pour proposer un groupe de réflexion de 100 personnes qui soient à l'image de la France et que les personnes en situation de handicap deviennent acteurs de la politique sportive et non plus uniquement des bénéficiaires et des spectateurs. Mais pas que. intégrer également des entreprises dans le groupe, intégrer des gens peut-être du village d'Adel tout à l'heure, que ça soit pas uniquement un phénomène avec un épicentre parisien, mais vraiment à l'image de la France, dans toutes ses composantes, que ce soit sur le plan social, géographique, et puis également les personnes en situation de handicap ou pas, pour fournir des recommandations opérationnelles qui permettront véritablement de développer le parasport et que ça ne soit pas uniquement des coups d'un jour sans effet le lendemain. Ce n'est pas du tout l'idée.
Et ce coup d'un jour, justement, on le ressent un petit peu comme effet après les JO, puisque pas mal de sportifs, et notamment dans le handisport, se sont sentis un peu délaissés et oubliés. Comment est-ce que vous arrivez à contrer? Est-ce que vous n'êtes pas un peu inquiet pour la suite, sachant que le budget pour le sport a largement été coupé?
Alors en fait, dans la boxe, faut surtout pas être inquiet. C'est-à-dire quand on a un genou à terre, le principe de la boxe, c'est la résilience, c'est de se relever, d'encaisser des coups et puis de contre-attaquer. Donc on a pas mal d'actions qu'on a prévues, qu'on a déjà mis en place. Les chiffres que je vous évoquais tout à l'heure montrent aussi qu'il y a une autre voie qui est possible pour développer le parasport. Il y a également des formations qui peuvent se mettre en place, notamment pour accompagner des structures associatives sur l'utilisation de l'IA. Parce que souvent, les associations, les clubs sportifs n'ont pas le temps de faire ça, de répondre aux appels à projets. Et c'est un sujet sur lequel je pense très sérieusement en ce moment, sur l'aide à la communication, à la structuration du financement pour les associations sportives grâce à l'IA.
Est-ce que vous pensez que justement ce genre d'action et de mission pourrait permettre aux sportifs, aux handisportifs de récupérer par exemple des sponsors qu'ils auraient perdu ou améliorer leur visibilité?
En tout cas, ça peut leur permettre de leur fournir de nouveaux outils, des méthodes qui sont peu classiques, peu ordinaires. Et il faut vraiment ouvrir les champs plus que ce qu'on fait aujourd'hui en responsabilisant, en fait, y compris les personnes en situation de handicap, et en trouvant de nouvelles voies. Parce que le modèle qui existe jusqu'à présent, malheureusement, on ne peut pas continuer comme ça. Et voilà, il faut aller chercher de nouvelles solutions pour la cause qui nous engage, je le redis, qui est de développer le parasport en France.
Alors, on arrive à la fin de cette interview. Merci beaucoup pour votre... Alors, j'aime bien les belles histoires, Yann Mazé. Je voudrais juste que vous racontiez ce jeune homme qui était porteur de schizophrénie, que vous avez raconté au mois de décembre, et qui a pu diminuer son traitement grâce aux bonnes doses d'hormones, comme vous dites, pour tout ça, pour expliquer que combien c'est hyper noble ce que vous faites et que ça fait du bien autour.
Ok. Alors, moi, en fait, ce que je fais, c'est pas hyper noble. Ce qui est hyper noble, c'est ce que fait le coach et l'adhérent. Moi, je suis juste une petite cheville ouvrière dans ce mécanisme-là. En effet, il y a une statistique qui est ressortie assez récemment. Et ça, il faudrait qu'on en prenne conscience, mais que ça soit suivi des actes, puisque 1 euro dépensé dans la pratique d'activité physique et sportive, c'est 13 euros de réduction des dépenses de santé publique. Ça, c'est un premier point, notamment sur la consommation de médicaments. Donc là, je veux dire quelque chose qui ne va pas forcément faire plaisir à l'industrie pharmaceutique. Mais effectivement, sur certains troubles psychiques, le fait de remettre le corps en mouvement va permettre à l'usine à bonne hormone que vous évoquiez à l'instant de fonctionner. La noradrénaline et la dopamine qui vont permettre de se concentrer et puis d'évacuer les pensées qui peuvent nous parasiter. Et puis l'adrénaline et l'endorphine qui sont les hormones anti-stress du plaisir qui font que si vous faites du sport, et ben à la fin d'une séance de sport, on se sent hyper bien et détendu.
Et heureux. Merci beaucoup. Alors, c'est la fin de cette interview. On va faire une petite pause musicale. On va écouter I Love You Too Much de Orlando.
Wish I loved me like I love you. You know I'd never hurt you.
D'écouter I Love You Too Much de Orlando. Il est 19h54, vous êtes sur Radio Campus Paris et tout de suite la chronique libre.
La matinale de 19h.
Bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, le thème de ma chronique libre, c'est, accrochez-vous, Bad Bunny, embrasser un poisson, Jean-Mich et les Jeux Olympiques. Alors bon, j'imagine vos têtes confuses, mais rassurez-vous, vous allez comprendre. Notre voyage commence aux États-Unis. Je sais, c'était déjà il y a un mois. La planète entière en a déjà parlé, mais souvenez-vous, à la mi-temps de leur grand messe du football américain, le Super Bowl Halftime Show, et cette année, c'était Bad Bunny. On a eu le droit à une exaltation de la culture portoricaine dans une mise en scène colorée sur fond de salsa, de reggaeton et d'électro. Trop dynamité. Mais surtout, on a eu le droit à une conclusion où le mauvais lapin a paradé entouré de tous les drapeaux des Amériques sur ces mots.
God bless America! Sea Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Bolivia, Peru, Ecuador, Brasil, Colombia, Venezuela.
C'était un message clair, l'Amérique ne se résume pas aux seuls États-Unis, mais s'enrichit de la diversité de tous les pays et de leur culture métissée. Et face à ça, le même jour, les conservateurs américains ont proposé un contre-spectacle, le All-American Halftime Show. Yeah. On y a découvert un bonhomme barbu à chemise à carreaux et casquette à l'envers qui nous a solennellement chanté ses paroles.
I just wanna catch my fish, drive my truck, drink my beer. Not wake up to all this stuff I don't want.
Alors si on tend l'oreille, on croirait vraiment que le type nous chante « I just want to kiss my fish », je veux simplement embrasser mon poisson. Un message clair, l'Amérique c'est les États-Unis d'Amérique et c'est des champs de blé, taquiner la carpe, siroter une Bud Light. C'est un beau programme. Alors tout ça, ça m'a fait cogiter un peu cette guerre culturelle. Parce que j'aime bien cogiter et je me suis rappelé qu'on avait eu droit à peu près à la même chose en France il y a quelques années. Je me risque à dresser un petit parallèle. D'un côté, il y avait la cérémonie d'ouverture du Mondial de rugby fin 2023. Au milieu du Stade de France, des décors en carton-pâte qui représentait des fleurons de l'artisanat français. Et on trouvait Jean Dujardin en Marcel, Béret et Vélo Cargo qui interprète le personnage de Jean-Mich, un fier boulanger qui distribue du pain à tout le monde sur fond d'accordéon musette. Message, la France c'est le terroir, la bidoche, la vinasse et le combo Béret-Moustache. De l'autre côté, quelques mois après, on assistait à la cérémonie d'ouverture des JO de Paris. Et là, on a eu le droit à une autre couleur de notre fier pays. La tête décapitée de Marie-Antoinette qui chante sur le métal de Gojira, souvenez-vous. Philippe Catherine tout bleu et tout nu. Assassin's Creed sur les toits qui balade la flamme olympique. Et surtout, ce passage. Aya Nakamura qui reprend le Oh Jaja featuring le chœur de l'armée française devant l'Académie française. Ça, c'était une sacrée audace. Message, la France, elle est diverse, mouvante et elle est plurielle. Ces quatre spectacles me font penser à des représentations totalement opposées de leurs pays respectifs. Et les chiffres ont parlé. Aux USA comme en France, le public a plébiscité en masse Bad Bunny et l'ouverture des JO. De l'autre côté, les autres spectacles ont été raillés et moqués pour leur vision étriquée de leurs identités nationales. Il existe donc en nous une fierté à se reconnaître comme divers et on refuse l'essentialisation de nos identités. Après tout, je me dis que c'est un peu comme en agriculture. Les monocultures assèchent la terre, la rendent stérile et tuent la biodiversité. Et ce qui fait la richesse d'un sol, c'est la diversité des essences qu'on y fait pousser. Allez, c'est tout pour moi et si un jour vous croisez un mérou, pensez à lui faire un petit bisou.
Merci beaucoup Vladimir, bravo. On arrive à la fin de cette matinale. Peut-être je voudrais passer à la place du générique, un dernier mot pour Yann Mazé concernant justement les municipales. Allez-y. Alors, vous vouliez passer un message tout à l'heure ?
Oui, par rapport au...
Allez-y.
Par rapport au programme, pardon, oui. des différents candidats, donc j'ai eu l'occasion d'écrire à tous les candidats pour connaître un petit peu quelle part ils souhaitaient accorder dans leur programme au développement du parasport, en l'occurrence à Paris, qui, je le rappelle, au cas où certains seraient passés à côté, a accueilli des Jeux paralympiques au mois d'août et septembre 2024. J'en ai qu'un seul qui a répondu. C'est Monsieur Emmanuel Grégoire. Donc, a priori, en tout cas sur le plan du développement du parasport à Paris, il a pris un pas d'avance.
Ah, super. Merci beaucoup Yann Mazé. Et c'est la fin de cette matinale. Merci à tous nos invités. L'équipe de ce soir, c'est Aude à la Réal, Charles en grande interview, Iskelani en flash info, Robin au Zoom en chronique, Abel et Vladimir. Tout de suite l'émission 4 murs, restez branchés. Et en ce qui nous concerne, on revient demain, même heure, même fréquence. Et d'ici là, rendez-vous sur radiocampus.org. Très bonne soirée et à demain.